Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel je voulais qu'on revienne aujourd'hui sur ces affaires de violences sexistes et sexuelles qui n'en finissent plus de secouer le monde politique.
RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal.
Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti.
On verra, step by step.
Sandrine Rousseau qui revenait hier soir sur C'est à vous, sur France 5. Sur ces accusations visant Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Dans le même temps, les insoumis sont embarrassés par l'affaire Quatennens. Le député
Julien Bayou, Adrien Quatennens aujourd'hui, après Éric Coquerel ou Damien Abad il y a quelques mois. Alors est-ce l'heure du MeToo politique ou simplement le reflet d'un mouvement plus sociétal? On va se pencher sur ces questions avec le service politique de RTL, son chef Olivier Bost et Marie-Bénédicte Allaire qui suit la gauche depuis de nombreuses années. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour Marion.
Alors là, en l'occurrence, Olivier, c'est donc au sein de la NUP que ça tangue ces derniers jours. Avant toute chose, pour ne pas faire de généralité, on va bien rappeler de quoi on parle précisément concernant Julien Bayou et concernant Adrien Quatennens.
Effectivement, il faut faire le distinguo parce que à la fin, on a vu beaucoup d'histoires sortir dans le milieu politique, et dans un certain nombre de cas, on n'a pas eu, il n'y a pas eu de justice ensuite, enfin de procédure en justice, et il faut toujours se souvenir que le plus important dans toutes ces affaires, c'est à la fin qu'il y ait une qualification pénale, c'est-à-dire est-ce que ça relève ou pas du code pénal et quelle est la gravité des faits. Et il y a beaucoup d'affaires où on commence à en parler, puis finalement il n'y a pas de suite, soit par prescription, soit parce que les affaires finalement restent en interne. Mmh. Et c'est pour ça que c'est important de distinguer, par exemple, Adrien Quatennens, il reconnaît des violences sur son ex-compagne.
Giflé son ex-compagne.
Voilà, lui avoir aussi pris son téléphone portable, ce qui est aussi une forme de violence. Et donc il reconnaît des faits. Son avocate dit maintenant qu'il faudra quand même l'enquête pour déterminer si c'est un homme violent ou pas. Et dans le cas de Julien Bayou, c'est aussi une séparation houleuse, mais en revanche, les termes utilisés pour décrire les choses, pour l'instant par Sandrine Rousseau, elle n'emploie pas le mot de violence sexiste ou sexuelle, plus une qualification ou une idée de harcèlement. Mmh. Voilà, je pense que les distinguos sont importants. Les uns et les autres reconnaissent ou pas des faits. Et pour l'instant, on en est vraiment au début de ces affaires.
Le fait est quand même, Marie-Bénédicte, que ces révélations, elles viennent s'ajouter à d'autres dossiers. Un tas à Bouafs qui devait porter les couleurs de la NUP aux législatives accusées de violences sexuelles. L'insoumis Éric Coquerel, président de la commission des finances à l'Assemblée, accusé de harcèlement. L'un écarté, l'autre toujours en poste. Est-ce que ça, ces réponses qui varient, Marie-Bénédicte, ça dit quelque chose aussi de l'embarras qu'il peut y avoir en interne au sein des partis et notamment de la NUP à traiter ce genre de dossier?
Oui, il y a certainement de l'embarras parce que ces partis de gauche se veulent exemplaires sur les violences faites aux femmes. Et en fait, on s'aperçoit que quand ça touche des membres de ces partis, la réponse n'est pas évidente parce qu'il y a le facteur humain, parce qu'il y a la présomption d'innocence et qu'ils sont pris entre apporter une réponse rapide et ne pas bafouer une présomption d'innocence. Et on l'a vu par exemple dans l'affaire Tahabouaf, dont vous parliez. Tahabouaf, c'était un jeune journaliste militant qui était investi par la France Insoumise pour les législatives. Il y a eu des accusations d'une femme et là, la France Insoumise a pris le parti de l'écarter tout de suite. Alors, peut-être pris par le temps, peut-être. Mais lui, il dit qu'il n'a pas eu le temps de s'expliquer, qu'il n'a jamais su de quoi on l'accusait. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'impression que parfois, il y a deux poids, deux mesures.
Oui, en tout cas, on sent bien à quel point tout cela bouscule les partis. Il y a la réponse qui est apportée à ces révélations, puisque ce qu'elles disent aussi du fonctionnement interne des partis, hein, Olivier.
Moi, je trouve que c'est très révélateur sur la France Insoumise, effectivement, de leur fonctionnement, qui est un fonctionnement à la fois assez clanique, c'est-à-dire qu'autour de Jean-Luc Mélenchon, il y a une garde, et une garde qui se protège. On voit très bien que Jean-Luc Mélenchon a des réactions, effectivement, comme le disait Marie-Bénédicte, différentes en fonction, quelque part, de la proximité avec lui. Il n'a pas du tout eu la même réaction, effectivement, pour Éric Coquerel, par exemple, qu'il a vraiment énormément défendu. Pour Adrien Quatennens, avant de parler de sa femme, il le défend, et il défend donc des hommes, et des hommes qui sont dans son entourage. Donc ça, ça révèle un fonctionnement clanique, et puis après, un fonctionnement qui effectivement est très problématique et qui est quasiment, moi j'emploie un peu le mot, mais qui est fort volontairement, mais qui est quasiment stalinien. C'est-à-dire que vous avez un comité dont on ne sait pas grand-chose.
Un comité qui va recueillir la parole de victimes potentielles de violences sexistes ou sexuelles au sein du parti, qu'elles soient dans le milieu politique ou dans le milieu privé.
Voilà, c'est ça. Et dont le fonctionnement est totalement opaque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est leur façon d'enquêter, s'ils enquêtent, est-ce qu'il y a du contradictoire, on ne connaît pas leur calendrier. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, et qui permet par moment. Mine de rien, en tout cas, il y en a le soupçon est quand même largement alimenté, par moment d'écarter ceux qui ne sont pas forcément désirés, notamment pour des élections. Donc il y a une géométrie variable qui est extrêmement gênante à la France insoumise sur ces questions-là et qui sont complètement en contradiction avec effectivement une idée de, sinon de pureté, en tout cas de morale portée très fort et très haut sur ces questions-là par le parti.
Ouais, on l'a dit justement, la gauche en ce moment, c'est elle en priorité qui est bousculée. Moi, je me demandais dans quelle mesure aussi la place des féministes dans ces partis-là pouvait être une des explications de ces révélations qui succèdent. Et je voudrais qu'on entende l'élue parisienne Raphaël Rémy-Leleu. Elle était l'invitée d'On refait le monde il y a quelques jours face à Jean-Pierre Raffarin et elle réaffirmait sa ligne, toujours croire le témoignage des victimes.
Je pense que le privé est politique, je crois les femmes qui témoignent. Et donc s'il y a un témoignage d'Adrien Quatennens ayant exercé des violences conjugales, je ne considère pas qu'Adrien Quatennens puisse être un représentant de la gauche dans ce pays ou ailleurs.
Il faudra en tirer des conséquences politiques pour vous.
Bien sûr que oui.
En fonction de la justice quand même.
On ne peut pas imaginer...
En fonction du droit.
Pardon ?
En fonction du droit, en fonction de la justice, non ?
Bah oui, bien sûr.
Oui,
aussi.
C'est ça. Oui, non, parce que vous avez dit le témoignage. Le témoignage est une chose, la justice en est une autre.
Ça, c'est mon parti pris personnel et politique de croire les femmes qui témoignent.
Voilà, le parti pris assumé de Raphaël Rémy-Leleu. Donc le témoignage avant tout, c'est celui que l'on croit, assume-t-elle. On a entendu tout à l'heure que sur Julien Bayou, c'est venu de Sandrine Rousseau. Est-ce que justement la présence de féministes dans les rangs de ces partis explique aussi, Marie-Bénédicte, le fait que ces révélations, elles touchent principalement ces partis de gauche?
Alors les partis de gauche, c'est vrai qu'ils ont... C'est pas simplement Raphaël Rémy-Leleu qui a ce parti pris. Parce que hier, par exemple, Olivier Faure du PS disait la même chose. Il disait notre parti pris politique, c'est de croire d'abord les femmes parce que les femmes se sont trop souvent tues, parce qu'elles avaient peur de ne pas être écoutées, de ne pas être entendues, et donc elles ont préféré se taire. Donc aujourd'hui, on dit de prime abord, on vous croit. Et après, on enquête. Alors évidemment, ça peut conduire à certaines dérives. Hein. Encore faut-il que les accusations soient étayées, etc. Ça, c'est à la justice de le prouver après. Mais c'est vrai que finalement, les féministes ont pris beaucoup de place dans les mouvements politiques de gauche, singulièrement Sandrine Rousseau à Europe Écologie. Et c'est sans doute la traduction politique du mouvement MeToo. Hein. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, par exemple, elle formalise bien ça. Elle est venue... à la politique, finalement, elle est revenue à la politique grâce au mouvement MeToo. Et c'est un peu, je vais pas dire son fond de commerce, le mot n'est pas beau, mais elle traduit tout au travers de ce prisme-là.
Ouais.
Voilà.
Sandrine Rousseau, qui avait par ailleurs dénoncé, qui avait été l'une des révélatrices de l'affaire Baupin au sein du parti Europe Écologie Les Verts, il y a en 2016, me semble-t-il, l'affaire Baupin, il y a eu l'affaire Tron, l'affaire Abad, il y a quelques mois. On a aussi parlé de ce député de la majorité présidentielle, Benoît Simion, qui a été condamné pour avoir harcelé son ex-femme. Est-ce qu'on est là, Olivier, dans un mouvement aussi de libération de la parole appliquée au monde politique?
Oui, et ça va continuer. Ça accompagne totalement le mouvement MeToo. Hein. C'est une déclinaison, quelque part, pour le monde politique de MeToo. Ça, y a pas de... Enfin, c'est comme ça touche d'autres secteurs. Alors après,
Oui, finalement, la politique, c'est aussi le reflet de la société. Le monde politique n'est rien d'autre que le reflet de la société.
Oui, avec cette particularité qu'on peut appliquer aussi à d'autres milieux, c'est la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a en politique des structures avec du pouvoir qui peut être exercé et qui s'exerce contre les femmes et qui permet des abus contre les femmes. C'est pareil dans le milieu de l'entreprise, c'est pareil dans nos médias. C'est, voilà, on l'a vécu et on le vit dans plein de secteurs. Et le point commun, effectivement, c'est d'abord la question du pouvoir. Mmh. Or, en politique, par définition, c'est le lieu de pouvoir par excellence. Et dans les structures politiques, ce sont des lieux de pouvoir.
Ce sont des lieux de pouvoir. Pour l'instant, en l'occurrence, on le redit, mais c'est la gauche qui se retrouve en difficulté. La droite, elle a fait son introspection. On parlait de ces comités mis en place à gauche. Est-ce que dans le monde politique, Marie-Bénédicte, les autres partis ont aussi réagi ?
Non, les autres partis, effectivement, que ce soit Renaissance ou le parti macroniste ou que ce soit la droite, à ma connaissance, n'ont pas ces structures internes, ou le RN n'ont pas ces structures internes. Ça pose d'ailleurs une question intéressante et certains ne manquent pas de le souligner. Ce matin, j'entendais un élu RN, Sébastien Chenu, souligner ça. Il disait, c'est quoi cette justice privée ? Finalement, si on a connaissance de faits délictueux, on les signale à la justice. Et c'est vrai que ça pose une question. Parce que normalement, un élu, je ne sais plus quel article de loi c'est, mais...
L'article 40.
L'article 40, voilà. Ouais. Quand il a connaissance de faits délictueux, son devoir, c'est de les signaler à la police, à la justice. Donc, est-ce que en ayant mis en place ces structures internes, bon, au départ, c'est des très bonnes intentions, hein, c'est libérer la parole des femmes, faire qu'elles se sentent écoutées, mais est-ce que l'effet pervers de ça, c'est pas que finalement, on garde sous l'étouffoir en interne des choses qui devraient être transmises à la justice?
Ouais, et d'ailleurs, le communiste Fabien Roussel lui a plaidé pour que finalement, il y ait une organisation commune à tous les partis pour pouvoir traiter ces dossiers-là. On voit bien, en tout cas, qu'aujourd'hui, chaque parti a conscience que sur ces sujets-là, il ne peut plus rester sans rien faire.
Je ne sais pas si cette conscience existe de manière aussi nette que ça. Notamment, par exemple, je pense au Rassemblement national où la parole, pour le coup, c'est pas franchement libéré. Après, il n'y a pas de féminisme assumé ou de féministe revendiqué. Donc ça peut expliquer aussi cette situation-là. Si on prend l'échiquier politique chez les Républicains, il y a eu des affaires, mais elles sortent relativement peu. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Après, sur l'idée d'une structure un peu transpartisane, je pense que l'idée de raisonner pour les politiques, en se disant que c'est à eux de régler ce problème-là, est un souci. Parce que si je reprends l'exemple des entreprises... il peut y avoir des mécanismes d'alerte pour prévenir que vous êtes victime de harcèlement ou de violence, mais systématiquement et la plupart du temps, quand on fait ces travaux-là pour assainir les situations, c'est des structures extérieures qui viennent recueillir la parole. Là, l'idée de faire les choses en interne est quand même problématique. Et si c'est même en interne au niveau politique, il y a le problème que c'est pas déjà c'est en soi c'est une fonction, une mission de faire ce genre de travail là et de le faire en interne est quand même pose vraiment vraiment question.
Parce que vous deux qui suivez le monde politique et les partis depuis de nombreuses années, quand vous discutez avec des femmes, qu'elles soient conseillers ministériels, qu'elles soient dans des cabinets, qu'elles soient attachées parlementaires ou qu'elles soient même peut-être députées ou ministres, elles vous racontent quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'elles en parlent facilement des difficultés qu'elles peuvent avoir à être femmes dans le monde politique ?
Alors, le rapport au pouvoir avec les hommes est un sujet central. On peut même en parler avec la Première ministre. Elle vous parle de ce rapport-là et de la question des hommes et de leur façon d'exercer le pouvoir. Donc ça, c'est un sujet facilement abordable. Ensuite, sur la question beaucoup plus problématique et beaucoup plus sensible de questions d'agression sexiste, sexuelle, etc., Là, c'est du travail de longue haleine et ce n'est pas des choses qui sont exprimées comme ça. Il y a eu des enquêtes journalistiques remarquables sur le sujet, notamment sur l'affaire Denis Baupin, qui ont permis de libérer cette parole. Mais après, ce n'est pas quelque chose qui est exprimé encore aujourd'hui au quotidien. Et puis, c'est valable pour toutes ces histoires. Je veux dire, c'est pas quelque chose... Il y a des déclencheurs pour libérer la parole, mais c'est pas quelque chose d'exprimer spontanément. Enfin, je sais pas,
non, effectivement, Marie-Bénédicte, parce que je pense que ça reste une souffrance d'avoir été agressé ou harcelé ou humilié. Enfin, donc c'est pas quelque chose qu'on confie comme ça. Moi, j'ai souvenir qu'une ancienne élue du mouvement des jeunes socialistes m'avait raconté quelque chose qu'elle n'avait jamais raconté, la voix brisée, mais visiblement c'était très très difficile. Donc c'est pas non quelque chose qu'on confie comme ça facilement, mais comme je pense n'importe quelle femme dans n'importe quelle situation. Voilà. Donc
non, ça reste. Et puis ça a des conséquences lourdes.
Politiquement.
Bah oui, personnellement et politiquement. Je veux dire, quand vous prenez la parole, on voit bien sur les cas qu'on peut voir aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui reste extrêmement difficile.
Et donc c'est aussi ce qui explique peut-être la longueur de ce mouvement MeToo dans le monde politique où la parole se libère peut-être un peu plus doucement.
C'est malheureusement
aussi.
Et heureusement loin d'être fini.
Merci à vous deux, Olivier Bost et Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, de nous avoir accompagnés dans ce nouvel épisode de Focus que vous pouvez noter, que vous pouvez commenter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur rtl.fr.